Vous écoutez
RMC.
RMC.
Allez, on y va.
Viens, je vais te montrer le jardin.
6h-7h.
Votre jardin.
Hors du jardin sacré, misérable.
François Sorel.
Patrick Mulan.
Et nous y voilà, nous sommes le 9 novembre 2019 et c'est parti pour ce week-end des experts. Je suis très heureux de vous retrouver. On va passer cette matinée ensemble avec tout à l'heure entre 9h et 10h la vie numérique et Raphaël Grabli qui sera à mes côtés. On va parler des services de vidéo en streaming, vous savez, les Netflix, l'Amazon, Disney+, qui va bientôt arriver, et puis aussi de YouTube, qui est sans doute la mémoire du monde, YouTube. Hein, vous savez qu'on trouve à peu près tout sur YouTube. Il y en aura un porte-parole de YouTube qui nous expliquera comment ça fonctionne et quel est ce phénomène YouTube incroyable. Tout à l'heure, évidemment, ce sera la forme et la santé, avec Christian Ekia qui nous rejoindra dans ce studio. On essaiera de vous donner quelques conseils pour protéger votre cœur, surtout si vous faites pas de sport. Dans notre rendez-vous maison, voilà. Dans notre rendez-vous maison avec Christian Pesset, on évitera les malfaçons dans la construction ou la rénovation de votre maison. On vous donnera quelques conseils avec notre invité, et puis on évoquera aussi les combustibles pour le chauffage, que ce soit le bois, la bûche, le granulé, le bois compressé, comment choisir. Et puis bien évidemment, tout au long de ces 4 heures, vos questions au 3216, 3216 le standard RMC. Et puis vous avez aussi à votre disposition, vous le savez, l'appli RMC sur votre smartphone et Direct Studio. À tout moment, vous pouvez nous laisser un petit message. Et avant donc de retrouver la vie numérique, la forme, la santé et la maison, évidemment on débute par le jardin. J'ai le plaisir d'accueillir Patrick Mulan. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très 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 bienvenue au jardin. On va mettre un peu plus de douceur que tous ces échauffourés qu'ils ont eu avant.
Oui, c'est vrai. D'autant que le jardin commence tranquillement à se mettre en sommeil.
Ouais. Hein, puis voilà. Le jardin, c'est universel.
Oui, voilà.
Ça rapproche. Ça accorde tout le monde.
Exactement. Au menu de cette heure dédiée au jardin, tout à l'heure, un invité exceptionnel. Nous recevrons le chef étoilé Michel Brass, Patrick. Il sera avec nous au téléphone.
Michel Brass, qui avec son fils Sébastien viennent de sortir un livre magnifique chez Plume de Carotte, qui s'appelle Le goût du jardin.
Oui, le goût du jardin.
Et vraiment, le livre est génial, mais vous verrez à quel point Michel Brass est un homme imprégné du monde végétal et qui raconte des histoires formidable.
Voilà, comment cuisiner les légumes, quels sont ses légumes préférés. Évidemment, je pense qu'on va parler de légumes de saison.
Et puis plein de trucs qu'on connaît pas en plus. Parce qu'il fait manger des trucs invraisemblables, vous allez voir.
Ce sera tout à l'heure. On retrouvera aussi votre coup de cœur, vos questions au 32-16 et puis notre conseil de l'expert de ce samedi, comment cultiver son jardin en biodynamie. Vous nous expliquerez ce qu'est la biodynamie.
Oui, c'est la première fois qu'on va évoquer ce sujet sur notre antenne.
Eh bien voilà. Bah écoutez, il fallait bien une première fois. Hein,
oui, oui.
Bienvenue dans ce week-end des experts jardins. C'est parti et on attaque tout de suite avec vos questions. C'est Ahmed qui débute ce week-end des experts en ce samedi matin. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Bonjour Ahmed, bienvenue.
Bienvenue bonjour. Ahmed sur RMC. Vous nous appelez d'où Ahmed ?
De Seine-et-Marne.
De Seine-et-Marne. Eh bien, écoutez, bienvenue dans ce week-end des experts. C'est le jardin pour commencer. Et je crois que vous aviez une question pour Patrick Mulan.
Exactement. Mais par contre, ce n'est pas pour jardiner en bio. Mais par contre, moi, je cherche quelques conseils pour faire pousser une haie. Comme je vous l'ai envoyé par
photo. Oui, j'ai vu les photos, Ahmed. Vous avez commencé à planter des lauriers roses.
Exactement.
Je pense que vous avez déjà fait un mauvais casting. Parce que
alors, vous vouliez planter des haies, pourquoi ? Pour justement avoir créer une espèce
pour casser
de...
le vis-à-vis.
Voilà,
le
casser vis-à-vis
par rapport aux voisins.
D'accord. Oui, alors déjà, vous avez quand même une belle clôture de séparation. Donc, votre voisin, vous ne le voyez pas trop. Bon, là, effectivement, l'idée, c'est plutôt d'habiller cette occultation par du végétal. Alors, je disais, vous avez fait une erreur de casting avec les lauriers roses parce que ce sont d'abord et premièrement des plantes méditerranéennes. Donc, en Seine-et-Marne, il y a quand même un gros risque, même si effectivement, et là, il faut qu'on leur tire les oreilles aux jardineries parce qu'ils ne sont pas toujours bien sérieux par rapport à ça, notamment en Île-de-France où on vous propose chaque printemps une quantité de plantes méditerranéennes invraisemblables. Avec ces risques quand même de ne pas avoir la plante qui va tenir le coup sur des hivers qui, forcément, même si on est dans une vague, on va dire, de réchauffement ou de bouleversement climatique, à un moment donné, en Seine-et-Marne, vous aurez moins 10, moins 12. Et là, quick, vous aurez un gros problème avec vos lauriers roses.
Et quick.
Deuxièmement, le laurier rose étant une plante, encore une fois, méditerranéenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des plantes qui sont habituées à de longues périodes de sécheresse. On a eu ça cette année, formidable, sauf que ça ne veut pas dire forcément que ça va revenir. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, depuis la rentrée, depuis septembre, il tombe sur la région parisienne une quantité d'eau quand même relativement importante, qui ne plaira pas forcément aux lauriers roses et qui va générer sans aucun doute des maladies cryptogamiques, notamment des taches noires sur les feuilles. Voilà, François, il en a quelques-uns, mais ils sont un peu plus abrités sur une terrasse, ça sèche plus rapidement que dans un jardin en pleine terre. Parce que là, vous, Ahmed, sur la photo que j'ai, vous les avez plantés en pleine terre. Donc, je dis, ouïouïouï. Bon, ne les arrachez pas, ils sont là, tant mieux. Mais, de toute façon, l'idée, ce n'est jamais maintenant de faire une haie en monoculture, c'est-à-dire de ne pas avoir une seule plante. Il faut absolument créer de la biodiversité en mélangeant des espèces variées. D'abord, c'est plus joli. Ensuite, ça attire les oiseaux. Et surtout, bon, bah, ça va créer un écosystème bien plus équilibré dans votre jardin. Notamment, imaginez que, allez, on va être gentil, on va dire dans 3 à 5 ans, lorsque vos lauriers roses seront bien développés, tout d'un coup, bing, voilà le coup de froid. Vous avez planté que ça, votre haie, elle est foutue. Bon. Alors que si vous écartez plus les lauriers roses, parce que bien entendu, maintenant qu'ils sont là, on va quand même les garder, et d'autant plus que vous avez un autre mur de l'autre côté, donc vous pouvez allonger quand même votre haie, moi je dirais que vous arrachez, vous retirez un sur deux, et oui, au milieu de tout ça, vous allez ajouter de nouvelles plantes. Alors, qu'est-ce que l'on peut mettre qui pousse bien, qui pousse vite, et qui est adapté à la Seine-et-Marne? Énormément de choses. Notamment, par exemple, vous pouvez mettre des lilas. Vous pouvez mettre, bon, alors des fautinières, on en voit partout. Vous pouvez mettre tous les arbustes que l'on voit au printemps ou en été. Bon, par exemple, les arbres à papillons. Je sais qu'il y a une polémique là-dessus parce qu'ils sont devenus invasifs. Sauf que on trouve aujourd'hui des variétés qui sont stériles et qui donnent aussi une belle végétation avec des floraisons estivales. Les Zaltea, les hibiscus syriacus, par exemple, poussent très très bien en Île-de-France et se développent d'une façon généreuse. Alors après, il y a des plantes encore plus simples, du style cotonée aster, du style troène, par exemple, qui font d'excellentes plantes de haie. Mais encore une fois, mon conseil, c'est mélanger plusieurs espèces.
D'accord.
Donc, entre chaque laurier rose, mettez un arbuste différent, de manière à créer quelque chose qui va vous donner d'abord satisfaction plus longtemps, parce que vous aurez, par exemple, les lilas fleurissent au printemps, les buddleias fleurissent en été, vous pouvez mettre les cotonées aster, ça vous fait des grappes de fruits décoratifs en automne, etc. Donc voilà, en variant cela, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sympa.
D'accord, ok.
Et bien voilà, Ahmed.
Eh ben, je vous remercie.
Bon jardinage, c'est la période.
C'est la période pour planter. Allez-y.
D'accord, ok, ça marche. Ben, je vous remercie pour les conseils.
Et merci de votre fidélité, Ahmed. À très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Et si, tout comme Ahmed, vous voulez joindre Patrick, profitez-en, évidemment, nous sommes en direct, évidemment, à tout moment, vous pouvez poser votre question, ou alors réagir sur l'actualité du jardin. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio, RMC qui est la seule radio à vous proposer une heure dédiée au jardin, chaque samedi, 6h20, il est temps de retrouver le conseil de l'expert de Patrick.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Alors, Patrick, on va parler de jardin en biodynamie, mais en préambule, vous vouliez faire une déclaration solennelle. Voilà. Attention.
Alors, je voulais vous dire que personnellement, je ne partage absolument pas, mais vraiment pas, les principes de la biodynamie. Moi, personnellement, je considère ça comme du pur charlatanisme. C'est, vous verrez pourquoi, mais il me semblait important, puisque en fait, on voit de plus en plus de gens, et même de publications, il y a des calendriers biodynamie qui sortent, etc., que bah, vous soyez informé, que vous connaissiez les principes,
oui,
bah,
voilà,
vous expliquez ce que c'est, après vous y croirez ou pas. Mais je vous le dis quand même que moi, ma position est négative, de façon à ce que vous compreniez de temps en temps mes remarques. Après, je vous laisse libre, évidemment, chacun.
Oui, bien sûr.
Ou pas.
Alors Patrick, ça serait peut-être pas mal d'expliquer ce qu'est en fait le concept de l'agriculture biodynamique.
Donc il faut déjà savoir que c'est relativement récent, puisque c'est en 1924 que Monsieur Rudolf Steiner, qui se présentait comme un scientifique, mais qui est en réalité quelqu'un qui est à la fois un philosophe et un occultiste, c'est-à-dire quelqu'un qui croyait plus dans les sciences un peu occultes qu'autre chose, qui a posé les fondements de cette agriculture biodynamique en faisant des conférences en Silésie, et il avait fait évoluer en fait les idées de l'agriculture biologique. Donc c'est quelqu'un qui avait créé déjà une sorte de philosophie qui est assez sectaire, qui s'appelle l'anthroposophie, et qui est un courant de pensée qui décrit en fait, sans vraiment grande rigueur scientifique, des phénomènes, on va dire, à la fois ésotérique et surtout quelque chose qui est la science de l'esprit. Pour lui, en fait, disons, tout ce que l'on peut penser est quelque chose de primordial.
Anthroposophie, vous savez combien il faut de H en anthroposophie ? Il en faut un paquet quand même, hein. Il en faut au moins deux.
Voilà.
Qu'est-ce qui rapproche cette anthroposophie justement des techniques de culture, Patrick ?
Alors, ça s'est dérivé en allant voir les agriculteurs et en leur expliquant justement qu'il n'y avait pas de rationnel dans le monde, sur la planète, et qu'on pouvait, en ressentant, on va dire, tous les mouvements de la Terre, en comprenant les rapports qu'il pouvait y avoir avec la Lune, avec les constellations, etc., avoir un phénomène global qui nous permettait d'être meilleur et de mieux connaître les choses. Voilà.
Il y a des méthodes quand même qui sont conseillées dans tout ça.
Oui, parce que
pour l'instant, c'est un peu, j'allais dire, fumeux, mais non.
C'était pas trop fumeux au départ, parce que il s'est basé sur l'agriculture biologique. C'est-à-dire, donc, en disant uniquement des intrants naturels, une préparation du sol sans labour, utilisation de compost, mais c'est là que le bât blesse, il a ajouté ce petit côté ésotérique, donc, dont je viens de parler, de l'influence supposée des rythmes lunaires et planétaires dans le... Alors, nous, on est au jardin, mais c'est la même chose. Il est parti sur la ferme, mais le jardin, c'est la même chose.
Alors, on sait que vous n'y croyez pas, et en vous écoutant expliquer un peu ce que c'est, on peut évidemment adhérer à vos pensées, mais est-ce qu'il y a quand même des concepts valables dans la biodynamie?
Oui, bien entendu, c'est pas complètement nul. C'est-à-dire que, par exemple, il dit une chose. Une plante ne devient pas spontanément malade. En fait, elle se fragilise lorsque son environnement, et notamment le sol, n'est pas totalement adapté, ou par exemple aussi que la plante est intégrée dans un climat qui ne lui convient pas, comme on vient de discuter avec Ahmed, par exemple, pour ses lauriers roses en Seine-et-Marne. Donc il dit qu'il faut chercher les causes des maladies des plantes, et pas simplement le vecteur lui-même, et ça c'est quelque chose qui est très moderne aujourd'hui, c'est quelque chose que tout le monde, qu'on soit bio ou pas, admet actuellement.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la biodynamie ? C'est à la mode ?
Bah écoutez, il y en a quand même pas mal, et notamment en viticulture. Il y a toute une organisation de viticulture en biodynamie. Je pense qu'il y a plus de marketing là-dedans que de réalité, parce qu'en fait, du coup, on présente ces vins comme étant différents, parce qu'ils sont cultivés différemment. Mais alors, il y a des choses qui sont intéressantes. On dit, par exemple, dans le principe de Steiner, l'agriculture biodynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. Que demande-t-on de mieux et que fait-on d'autre aujourd'hui, ou du moins on essaye. Et on va trouver aussi quelque chose de très actuel, en disant la biodynamie considère que la nature est actuellement tellement dégradée qu'elle n'est plus capable de se guérir elle-même et qu'il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde. Ça, c'est comme ça que s'exprimait Steiner. On va dire que c'est le principe du sol vivant dont on a quand même pas mal parlé aujourd'hui.
Patrick, pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant la biodynamie, à part le fait que vous n'aimez pas trop ça ?
Ben, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que l'idée de Steiner, c'est de dire que le jardin ou la ferme est un organisme vivant qui a une individualité. C'est une vision extrêmement simpliste sur le plan scientifique. Et on a surtout des ajouts de préparation totalement démentes, qu'il appelle, par exemple, des choses pour dynamiser. Alors, on va vous donner un exemple. Il dit, par exemple, il faut mettre de la bouse de vache à l'intérieur de cornes de vache, enterrer ça pendant tout l'hiver, et après les redynamiser en les trempant dans l'eau, et les utiliser comme si c'était un super engrais, à la dose qui est de l'ordre de 1 millilitre pour 1 mètre carré. C'est rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il vous fait croire qu'en fait, en redynamisant les choses, tout d'un coup, mystérieusement, vous allez obtenir des succès fabuleux. Bon, il y a aussi autre chose qui est un peu curieux dans les calendriers biodynamiques, c'est que vous avez le jour feuille, le jour fruit, le jour racine, le jour
fleur. Et la lune aussi? La Lune a un impact.
Qui est lié, ouais, en fait, à l'influence supposée de la Lune, et surtout, ce qui est encore pire, des constellations. C'est-à-dire que si déjà, scientifiquement, on le sait aujourd'hui, l'influence de la Lune sur les croissances végétales est infime, on n'arrive même pas à le mesurer. Vous imaginez que les constellations qui sont à quelques centaines ou milliers d'années-lumière, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, on est plus dans l'horoscope, si vous voulez, que dans la technique culturelle. Maintenant, vous avez le droit à y croire. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et comme vous voulez.
Voilà, ça sera le mot de la fin concernant la biodynamique. On n'avait jamais évoqué, d'ailleurs, dans ce rendez-vous jardin. Mieux vaut tard que jamais. 6h27, c'était RMC. On revient dans un instant. Invité exceptionnel, on recevra le chef étoilé Michel Brass à l'occasion de la sortie d'un magnifique bouquin, Le goût du jardin, paru aux éditions Plume de Carotte. Et puis, bien sûr, toutes vos questions au jardin dès maintenant, 32-16 ou bien l'appli RMC et Direct Studio. À tout de suite. Mais auparavant, la météo de ce week-end, Jérémy Soudiman. Est-ce qu'on peut jardiner là, ce week-end?
Eh bien, François, je vais dire, ça dépend d'où vous vous trouvez. En fait, si vous aimez jardiner sous la pluie, pourquoi pas? Ça peut être le cas en Bretagne, par exemple. Si vous préférez jardiner sous la grisaille, sous effectivement les nuages, en même temps un petit peu plus sec, ça peut être le cas un petit peu partout. Par contre, au soleil, il faut aller vraiment dans le sud de la France, autour de la Méditerranée. Il n'y a aucun souci, vous pouvez jardiner sans problème. Côté température, ça risque, je vous en dirai un mot dans un instant, mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, je vous l'expliquais, cette perturbation, il y a une perturbation qui arrive aujourd'hui par l'ouest actuellement. Elle amène avec elle de la grisaille, de la pluie et du vent. Ce matin, on va retrouver de la pluie, je vous le disais, sur la Bretagne, de la grisaille, des nuages bas partout ailleurs. Et puis un temps qui devrait rester tout de même agité en Corse. Seule la Méditerranée devrait rester sous ce soleil ce samedi. Dans l'après-midi, peu de changements, sauf cette pluie qui va se décaler vers l'est du pays et toucher une large bande allant de la Normandie jusqu'aux Pyrénées. Attention également à ce vent qui va se renforcer sur les côtes. On attend des rafales entre 70 et 90 km heure et jusqu'à 100 km/h même sur la côte vendéenne. Les températures, elles chutent un petit peu. Il va falloir vous couvrir. Au lever du jour, comptez de 1 à 7 degrés du nord au sud. On retrouve également quelques petites gelées ce matin, principalement dans l'est du pays. Et puis cet après-midi, les maximales, elles vont atteindre les 8 à 17 degrés avec 8 degrés attendus à Paris, 9 à Lille, 10 à Lyon et Strasbourg. On attend 12 à Brest et La Rochelle. 14, ce sera pour Marseille et Ajaccio et 17 degrés la maximale attendue à Toulon.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS AgriCNAPS. 32-16, touche 1.
Pour poser toutes vos questions sur RMC,
à notre expert jardin, Patrick Mulan. RMC.
6h-7h.
Des carottes. Oui, dit que vous vouliez pas mal de navets. Il y en a 3 là, ça vous suffit?
Oui, parce que ça fait
4. Les pommes de terre aussi.
Et le chou.
N'oublions pas les poireaux.
On va mettre un petit peu de bouillon là.
Votre jardin.
En automne, on mange autre chose. Des châtaignes, des pommes, des poires, des poireaux, des noix, des citrouilles.
Tout ça donne envie de manger de bonnes soupes pour se réchauffer.
François Sorel.
Patrick Mulan.
6h33, c'est RMC, c'est le week-end des experts, le jardin. C'est vrai que là, on entendait dans le petit générique de début, une bonne soupe pour se réchauffer, c'est bien sympathique quand même.
Ça va être de saison.
Oui. Une bonne soupe faite maison avec de bons légumes, c'est bien, très très bien. En tout cas, merci d'être avec nous, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Jusqu'à 7h, on est avec Patrick Mulan. Vos questions au jardin au 32-16. Et on va maintenant parler de cuisine avec un invité exceptionnel.
Voilà, même on pourra peut-être lui demander une recette de soupe. On va avoir avec nous Michel Brass. Alors Michel Brass, je pense que tout le monde le connaît. Peut-être tout le monde n'a pas été dans son restaurant à l'Aïeul, maintenant qui est tenu par son fils Sébastien. Mais tous les deux, à quatre mains, en plus, on va dire avec une journaliste, ils ont écrit un bouquin qui vient de sortir chez Plume de Carotte, qui est magnifique, qui s'appelle Le goût du jardin. C'est un gros livre, 355 pages.
Ah oui, d'ores et déjà, on peut dire belle idée cadeau pour Noël.
Photo sublime, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le contenu. Le contenu avec cette idée du goût du jardin. C'est-à-dire, que peut-on cultiver au jardin, que l'on va consommer? Et là-dedans, il y a des choses incroyables, des plantes que j'aurais même jamais osé goûter. Et on va parler avec Michel donc de tout cela, parce qu'il nous fait le plaisir d'être avec nous au téléphone. Michel Brasse, bonjour, bienvenue sur RMC.
Bonjour Michel.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors j'ai fait un petit préambule par rapport à ce livre. Alors peut-être deux mots sur la genèse de ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire?
Mais disons que, alors tout d'abord peut-être pourquoi le jardin? Le jardin, quand on a passé avec mon épouse l'entreprise à Sébastien et son épouse Véronique, il y a 15 ans à peu près, le restaurant est à 1200 mètres et j'avais toujours eu envie d'avoir un jardin. Et je me suis rapproché de la propriété de mes beaux-parents, de mes beaux-frères, qui est à 800 mètres. Et donc, comme on voyage beaucoup avec mon épouse, ce jardin, on s'est amusé à y mettre toute une cueillette de par le monde. Voilà. Donc, il a à peu près 15 ans, ce jardin.
Mais à 800 mètres d'altitude, on ne peut pas tout cultiver quand même.
Oui, bah, y a des années où ça, où ça passe, d'autres années où ça pas, où on n'a pas de résultats. Mettons, je pense à un rhizome qu'on avait ramené de Waraka il y a 4 ans, c'est un piper burrito. Vous savez, l'aura central, le poivre du Mexique. Donc, les belles feuilles, ils les utilisent pour faire des poissons en papillote. Je l'ai ramené. Ben, pendant 2 ans, ben, il m'a fait un peu la gueule, on va dire. Et puis cette année, il était superbe.
Ah, voilà. Ben voilà, il leur faut. Ben oui, ben là, il lui faut quand même un petit temps d'acclimatation, on va dire.
Voilà. Oui, oui. D'ailleurs, j'avais ramené du Pérou, il y a quelques années, des pommes de terre.
Ah oui, pays d'origine.
Mon père qui était agriculteur, je lui en avais ramené. Il n'y croyait pas trop à ces pommes de terre toutes noires. Et puis ça a été l'année de la sécheresse en 2003. Puis je pense qu'il ne les a pas trop soignées. Voilà. Et je n'en ai pas vu le résultat.
Alors votre jardin, justement, il semble constituer un peu une sorte de laboratoire, un lieu d'expérimentation. Mais vous êtes aussi un grand passionné par les plantes sauvages.
Mais disons que mon approche de la nature s'est faite à travers la course à pied il y a 50 ans. Donc j'ai commencé mes premières cueillettes à cette époque-là. La Reine des Prés, je peux vous raconter comment je l'ai rencontrée, comment elle m'a interpellé, cette Reine des Prés. C'était au fond d'une pâture par un temps très lourd, où les parfums étaient très présents. Et puis elle m'a interpellé, je me suis dit, mais derrière, c'est cette nana qui, au coin du bois, est en train de se promener près de moi, avec ses arômes d'amandes, de miel. Je me suis retourné, il n'y avait personne, et puis si, il y avait une chambre de Reine des Prés. Alors je l'ai ramenée, je l'ai identifiée, puis un jour, elle a rejoint ma cuisine. Si vous voulez, la nature, je l'ai adoptée, je me suis adapté à sa rencontre. Mettons, vous prenez une mûre de ronce, la mûre de ronce, vous prenez les mûres qui sont irradiées par le soleil, elles sont bien meilleures que celles qui sont à l'ombre.
Oui, ça c'est sûr, c'est pour tous les légumes comme ça, ou les fruits. Hein.
Ah oui, oui, oui. Mettons, l'érythrone, c'est une feuille un peu mucilagineuse, c'est au printemps ça, c'est les premières pousses du printemps. Ces feuilles qui sont un peu mucilagineuses, là, moi j'y trouve un goût de pêche blanche. Bon, tout le monde ne partage pas mon idée, mais pour moi, c'est de la pêche blanche.
Mais par exemple, bon, là, vous venez de parler de l'érythronium, bon, c'est une petite plante à bulbe qu'on appelle aussi
oui,
la dent de chien.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous donne l'idée d'aller goûter un truc comme ça? Parce que moi, j'en mets au jardin pour la décoration, mais jamais j'aurais eu l'idée d'aller croquer les feuilles avec ce côté, notamment mucilagineux. C'est quand même étonnant.
Oh ben c'est de la curiosité, c'est tout. Ouais.
Voilà. Mais vous avez jamais eu des petits problèmes gastriques à manger un peu n'importe quoi?
Non, pas encore.
Pas encore. Donc vous savez prendre la bonne plante. Alors justement, dans le livre, on trouve des plantes qu'on n'aurait pas eu l'idée forcément de consommer. Bon, vous venez de parler de la Reine des Prés. Tiens, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, la Reine des Prés, vous en faites quoi?
La Reine des Prés, pour fixer les parfums, c'est sur du gras. Donc on en fait des huiles de macération ou alors sur des crèmes glacées. Le support, c'est le lipide, il n'y a pas de mystère.
Donc en fait, c'est un peu, vous travaillez ça comme le parfum, quoi, quasiment.
Ah mais les fleurs, oui, tout à fait.
D'accord. Alors je disais, oui, il y a des plantes un peu étonnantes qu'on n'aurait pas imaginées, comme le chardon-marie par exemple, ou même bon, il y a l'outuinia aussi. Ça, c'est un truc, vous mangez ça. Moi, j'ai ça au jardin, je le garde en ornement, mais vous utilisez ça comment ?
Mais alors, donc, il faut la goûter. Quand vous l'avez goûté, vous savez qu'il faut l'utiliser avec parcimonie.
Oui.
Donc, on la cisèle. Alors, cette plante, on la cisèle comme moi, je dis comme un niaque, vous savez, comme un apport de poivre, comme la touche de moutarde, comme les trois graines de sel, voilà. C'est une plante qu'on trouve beaucoup au Vietnam, ça, dans les soupes pho. Et de là-bas, j'ai ramené une plante aussi, le roram. Le roram, c'est, vous savez, c'est
un
persicaria odorata.
Persicaria. Et,
comment ?
C'est une persicaire.
Oui, voilà. Et alors, elle a un port de feuilles qui ressemble étonnamment à notre poivre d'eau qu'on trouve dans les champs. Alors, ce qui m'amuse, c'est que le roram, quand même, ça a de la puissance. Et cette plante qu'on trouve chez nous, c'est le poivre, c'est le pipère, hydropipère. A une connotation, si vous voulez, un peu désagréable. Et les anciens, dans notre langue, appelaient ça picoling, pique la langue.
Ah oui.
Oui, c'est étonnant.
Mais du coup, vous avez réussi, en fait, on va dire, à le domestiquer un peu et à l'intégrer dans certaines de vos recettes. Et en fait, il faut y aller doucement.
Alors, si vous voulez, bon, tout à l'heure, on parlait de la genèse du livre. La genèse du livre. C'est Véronique, l'épouse de Sébastien, qui en a eu l'idée parce que les clients posaient beaucoup de questions, si vous voulez. Et donc, pour répondre à votre question, la cueillette, moi je fais la cueillette, et puis quand j'arrive au restaurant, puisqu'il distance une quinzaine de kilomètres, je dis à Séba, ben, aujourd'hui il y a ça, prépare-toi, il va y avoir tel type de plantes aromatiques, tel type de légumes, je sais pas, les légumes, la celtus. Moi, mettons, il y a un haricot que j'aime par-dessus tout, que je cueille pas comme des filaments, mais un peu comme mon petit doigt. C'est le pois mange-tout de Saint-Fiat, ça de la croque. Oui. J'ai jamais mangé des haricots verts aussi bons de ma vie.
Ben, très bien. Bon, Michel, vous restez avec nous. Vous commencez à nous ouvrir l'appétit, même à 6h42. On va poursuivre avec vous, découvrir votre livre, Le goût du jardin, paru aux éditions Plume de Carotte. Si vous avez, tiens, des questions à poser à ce grand chef, n'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et puis surtout, vous pouvez nous dire, est-ce que vous avez un petit potager? Est-ce que vous cultivez? Est-ce qu'après, vous cuisinez ce que vous plantez? Dites-nous, 3216, l'appli RMC Direct Studio. Et on revient dans un instant, il est 6h42.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
Jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Voilà, il est 7h moins le quart. Le retour du week-end des experts. Le jardin. Patrick Mulan à mes côtés. Et nous avons toujours avec nous, avec beaucoup de plaisir ce matin, Michel Brass, le chef étoilé, que l'on peut découvrir dans cet ouvrage qui vient de sortir, hein, Le goût du jardin, paru aux éditions Plume de Carotte. Michel, quels sont les légumes de saison que vous pourriez cuisiner actuellement, tiens, les meilleurs selon vous?
Alors, c'est vrai que hier, le jardin était blanc. Alors, c'est les derniers instants puisque le restaurant ferme dimanche. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'ouverture de ce restaurant se fait de avril à fin octobre. Alors aujourd'hui, bon, on a ramassé il y a 3 jours les derniers celtus. Il me reste quelques green meat, quelques radis glaçons. J'ai rentré hier le chinus moll, vous savez, ce poivrier qu'on retrouve en Amérique du Sud. Là.
La baie rose, en fait.
Comment ?
C'est ce qu'on appelle les baies roses.
Peut-être, mais moi, j'ai jamais les baies, mais j'ai juste la feuille qui est très parfumée.
Ah oui.
Et alors, si vous voulez, ce jardin, j'aime bien faire voyager mon monde quand les cuisiniers viennent pour la cueillette, parce que ça leur ouvre des horizons sur les goûts d'ailleurs. Quand on va du Sancho au Japon, le roram, qu'on passe par l'Espagne, quand on passe, qu'on arrive en Amérique du Sud avec les pazotes, le cédrela, j'aime bien un peu leur faire des leçons de choses par rapport à ce jardin.
Oui, donc en fait, on déguste chez vous des choses incroyables.
Les derniers ramassés, vous me parliez, c'est un essai que j'ai fait cette année, c'est le jicama.
Le licama.
Jicama.
Le jicama, qu'est-ce que c'est?
Je ne sais même pas, Michel.
Bon, je vous ai collé alors.
Ah oui.
Non, c'est un bulbe que j'ai ramené de Oaxaca au Mexique, que bon, cette année j'ai utilisé juste râpé, comme une carotte. pour appréhender le goût. Bon, l'année prochaine, ça m'a plu, je vais faire quelque chose de plus l'année prochaine.
Eh bien, dites-moi, alors, la personne qui rédige les menus chez vous, il n'a pas intérêt à se tromper avec tous les noms bizarres que vous mettez sur votre carte.
Non, mais...
Ça va ?
Il y a pas de problème. Alors, j'ai des jardiniers aussi qui sont formidables, qui m'accompagnent, j'en ai deux. J'ai un anglais, là, et l'architecture des jardins est assez magique. Il s'appelle James, c'est un anglais, et Guillaume. Je tenais à le signaler.
Bah, vous avez raison. Alors, vous êtes toujours un peu au fourneau de temps en temps, quand même, Michel ?
Non. Pour mon épouse et pour mes petits-enfants.
Oh, là, c'est pas mal, quand même. Ils ont de la chance.
Et d'ailleurs, je reviens du Maroc, où j'ai ramené des graines de courge.
Ah oui.
Avec mon petit-fils, oui.
Très bien. Bah, Michel, en tout cas, merci d'avoir été avec
beaucoup.
Nous. Patrick, c'est votre coup de cœur, mais on aura l'occasion peut-être d'en parler dans les semaines.
C'est vraiment un livre superbe. Donc, je rappelle Le goût du jardin. Donc, Michel-Sébastien Brasse, c'est aux éditions Plume de Carotte. C'est un très très beau livre cadeau pour les fêtes.
Voilà, Cindy Chapelle et Yannick Fournier y ont participé aussi.
Bah, Yannick Fournier a fait les photos, elles sont sublimes. Sublimes.
Merci beaucoup Michel.
Merci, bonne journée.
À bientôt. Et on enchaîne avec Nicole qui est avec nous au 32-16. Bonjour Nicole.
Bonjour messieurs.
Bonjour,
je suis contente de vous entendre.
Vous savez que Nicole est un prénom qu'apprécie particulièrement Patrick, hein?
Ah bon?
Ben oui. C'est le prénom de ma femme.
Ah oui.
Eh bien oui, sa petite Nicole.
Oui, et merci beaucoup de m'avoir pris.
On vous écoute.
Alors voilà, je vous ai envoyé une photo. J'ai acheté au mois d'avril 2 pieds de fraisiers. C'est sur catalogue des fraisiers grimpants.
Mais on voit bien, oui.
Oui, alors je les ai plantés. Ils ont bien pris tout de suite. Même, j'ai été envahie d'ailleurs. Et depuis le mois de fin juin, j'ai des fraises tout le temps. Là, j'en ai encore 3 qui restent sur mes pieds. Et je voulais simplement vous demander. Il y a beaucoup de fraisiers qui sont aériens. Je voulais savoir c'est des pieds aériens, si je dois les couper, les replanter, ou si je les laisse suspendus comme ça, parce que j'ai peur. Nous, on est en Haute-Savoie, il fait assez froid l'hiver. Je sais pas.
Voilà, le fraisier, c'est rustique. Alors, le truc, quand on regarde votre photo, moi, je dirais déjà une première chose. Au printemps prochain, il faut me changer la jardinière. Parce que... Elle me semble un petit peu limite par rapport justement à l'expansion du fraisier. En revanche, vous avez bien expliqué que vous aviez acheté donc un fraisier dit grimpant, c'est-à-dire donc un fraisier qui fait de très longs stolons et qui permet d'être palissé. Et vous l'avez fait sur des arceaux et c'est très bien. Donc si vous voulez conserver cet aspect grimpant et même le laisser se développer, vous avez intérêt quand même à laisser un maximum de ces stolons en place. Après, vous pouvez en prendre 2-3 pour les repiquer et vous refaire une autre jardinière de fraisier si vous avez envie, mais parce que c'est moyen de les multiplier assez facilement, mais sinon, non, on va les laisser bien se palisser et même les encourager à bien habiller l'ensemble de la structure. Sinon, n'ayez pas peur, c'est tout à fait rustique. Bon, vous pouvez, en revanche, protéger, s'il y a des gros coups de gel, votre jardinière, parce que c'est une jardinière en plastique, donc qui n'est pas très épaisse, et qui aurait besoin, par exemple, d'avoir un petit peu de plastique bulle autour de la jardinière pour protéger les racines des fraisiers. Mais sinon, tout va très bien.
Merci beaucoup, Nicole. Patrick, rapidement, un mot quand même sur notre météo du jardinier qu'on a failli oublier, tiens.
Ouais,
qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Il y a des précautions particulières à prendre?
On rentre vraiment dans l'automne. Le temps qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire donc des matinées fraîches qui vont se rafraîchir petit à petit avec des risques de gelée dans certaines régions, notamment des régions classiques comme le Massif central ou comme la Champagne. Donc le conseil de base, toutes les plantes vraiment fragiles, maintenant ça doit être rentré parce qu'il y a un risque quand même d'avoir un petit coup de froid qui va pas leur plaire, notamment les bougainvilliers, etc. Ce qui est agrumes, je dirais rapprochez-les de la maison, mettez-les dans un petit coin, mais laissez-les encore dehors tant qu'il n'y a pas vraiment une gelée annoncée. S'il y a une petite gelée de l'ordre de 0 degré, couvrez-moi tout ça avec un voile d'hivernage, ça sera beaucoup mieux que de les mettre dans la maison.
On les rapproche si vous pouvez.
Voilà. Mais il y aura pas mal d'eau encore cette semaine, un petit peu partout, sauf.
Évidemment, en Corse,
sur
j'imagine.
La Corse et la Méditerranée en général. Voilà.
Patrick, on termine avec vos coups de cœur de ce samedi matin.
Alors, il y a un livre semi-coup de cœur qui s'appelle Alchimie végétale qui vient de sortir chez Houbeck Diffusion Gallimard. C'est un livre qui comme on l'entend là-dedans, c'est le côté un peu ésotérique des plantes. Alors, c'est bien fichu, il y a des très belles illustrations. Le propos, il est un peu style biodynamie. Alors, si vous êtes adepte de ce genre de choses-là, vous pouvez y aller. Sinon, vous allez trouver ça assez repoussoir, parce que la perception philosophique, je dirais, des auteurs peut être quand même assez contestable. Un livre qui est totalement passionnant, mais alors vraiment, là, c'est un peu plus pour les férus de botanique, mais qui est génial, génial, c'est Les plantes qui tuent, d'Elisabeth Donsi et Sonny Larson chez Ulmer. Livre qui est beau aussi, mais qui est vraiment extrêmement intéressant. On vous explique pourquoi les plantes se sont chargées de poison, notamment pour se protéger contre les herbivores, quels sont les types de poisons qu'elles développent, et effectivement, quels sont les plus toxiques, qu'elle soit de nos régions ou d'ailleurs. Donc, excellent livre, Les plantes qui tuent chez Ulmer. Et puis, un autre coup de cœur qui est très très proche de celui qu'on a vu aujourd'hui avec Michel Brasse, qui s'appelle Cuisiner la terre, de Gaël Aurieux et Julien Bourré à La Martinière. Très beau livre, même style, mais avec des images. Écoutez, j'ai rarement vu des photos de fruits et de légumes aussi belles, avec une lumière, avec des matières vraiment extraordinaires et plein de petites recettes tout à fait originales. Donc Cuisiner la terre à La Martinière.
Voilà, on voit que les beaux livres s'apprêtent
Ça arrive. Non, mais c'est drôle, parce qu'il y avait eu une période, il y en avait presque plus. Et maintenant, ça revient, et c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir des vrais beaux livres dans lesquels il y a du contenu.
Et de belles images, de belles photos. Voilà. Patrick, on se retrouve bien sûr samedi prochain.
Et oui, les jardinières, je vous embrasse, ma petite jardinière aussi. Et puis, à la semaine prochaine.
Et dans un instant, Christian PC. Bonjour,
mais
Christian.
Oui, je suis là. Bonjour, mon cher François. Bonjour, Miu Miu.
Une heure dédiée au bricolage, la maison, la déco, c'est dans un instant sur RMC. On va évoquer évidemment pas mal de sujets, vos questions au 32-16. Et puis, le bois, la bûche, granulé, bois compressé.
Voilà, c'est le moment.
On va choisir. On va choisir le bon. Comment on appelle ça?
Le bon combustible.
Le bon combustible, merci beaucoup. Et puis aussi, comment éviter les malfaçons dans la construction ou la rénovation de votre maison?
Au lendemain de Batimat, justement.
Tout à fait. On évoquera Batimat d'ailleurs à la fin de ce rendez-vous maison. Juste après la météo et les infos et vos questions, hein, bricolage maison, bien sûr, au 32-16 ou via l'appli RMC Direct Studio. À tout de suite.